Les jardinières.
On entame une nouvelle saison, l'automne, la nature change, les températures baissent, mais les jardiniers ne vont pas chômer jusqu'à 8 heures. Le jardinage est à l'honneur. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mylène, plaisir de vous retrouver et bonjour tout le monde.
Oui, nous aussi. Notre spécialiste ce matin, c'est Jean-Pierre Ribaud. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste à Queuves et propriétaire de Ribaud Paysages. Merci d'être avec nous ce matin.
Et comme chaque samedi matin, on commence par vous souhaiter bon réveil et merci bien sûr d'avoir choisi les jardinières pour débuter votre journée.
7h, 8h, les jardinières.
Les vendanges vont bientôt commencer, les amateurs de champignons trépignent d'impatience. Dites-nous Jean-Pierre, quelle tâche effectuer au potager ce week-end ?
Oh, eh bien, il y a effectivement encore beaucoup de travail dans ces potagers. On est dans une super période de récolte. Tout ce qui est de légumes à mettre en cave, de conserve, comme on dit, racines rouges, carottes. Il y a une quantité d'éléments qu'on est en grande période de récolte. Alors, bien sûr, faut pas oublier non plus les désherbages parce qu'il y en a toujours un peu qui arrivent pour se préparer déjà des carreaux de l'année prochaine pour éviter trop de mauvaises herbes qui arrivent. Mais effectivement, c'est une période chargée dans les récoltes et le nettoyage des potagers. Plus grand chose en plantation et on se met évidemment à cette période.
Jean-Pierre, on le remarque typiquement aujourd'hui où il fait quand même très frais le matin et des jolies températures au cœur de la journée. Est-ce qu'il y a quelque chose à surveiller plus particulièrement au jardin ?
Non, apparemment pas. Je dirais peut-être si vous avez encore des attaques de parasites, des souris, des choses comme ça, et puis que vous avez encore envie de mettre des choux, par exemple, en conserve dans le terrain en faisant une saignée et puis les hiberner dans la terre, là, faudra se prémunir de ne pas avoir de rongeurs aux alentours dans le potager parce que sinon, ce sera leur super garde-manger durant l'hiver. Mais sinon, non, rien de particulier. On n'a plus d'arrosage à réaliser. On a plutôt encore un peu de désherbage, comme j'ai dit, pour éviter les semences qui se mettent encore en place pour le printemps sur les carrés futurs des potagers. Non, mais on n'a plus de grandes interventions particulières, si ce n'est ces récoltes et ces choses-là.
Merci beaucoup Jean-Pierre, vous êtes avec nous et ça nous fait énormément plaisir. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h et vous allez bien sûr répondre aux questions de nos auditeurs. On rappelle les possibilités de nous atteindre jusqu'à 8h. Vous le faites par téléphone au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez le faire par SMS. Là vous tapez jardin, un espace et votre question, vous nous l'envoyez au 939. Et la troisième possibilité, c'est par le formulaire qui se trouve sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission, questions aux jardinières et là vous pouvez y joindre une photo.
D'ici quelques minutes, Jean-Pierre nous parlera de plantes invasives. Qui sont-elles? Et surtout, que faire si on est envahi?
7h, 8h, les jardinières.
Depuis des millénaires, l'homme introduit de nouvelles espèces et variétés dans les milieux qu'il cultive. Certaines plantes se développent rapidement au point de porter atteinte aux écosystèmes. Ce sont des plantes invasives. Voilà dans les grandes lignes la définition de notre sujet du jour. Jean-Pierre Ribaud, vous êtes paysagiste. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'on entend par porter atteinte aux écosystèmes ?
Ah, eh bien, c'est des végétaux qui se développent à un stade très rapide. Et puis, c'est aussi des végétaux qui font une trop grande couverture sur les espaces sur lesquels elles se développent. Et puis, automatiquement, il y a une sélection qui se fait au niveau du reste des pousses. Et puis, si on prend, par exemple, la berce du Caucase ou la renouée du Japon, c'est des plantes qui se développent tellement vite, tellement grandes et qui s'étendent tellement rapidement que vous arrivez à avoir plus que de la monoculture de genre de plantes, avec tout ce qui incombe au niveau des désagréments, au niveau de la santé, au niveau de la biodiversité, au niveau du principe économique, bien sûr, c'est presque des fardeaux, et puis le but est vraiment de les combattre pour limiter leur extension. On en a déjà passablement parlé au travers, et puis si rien n'est fait, alors on pourrait se retrouver dans des situations catastrophiques, surtout dans des zones telles que les berges de rivières ou les bords de routes, où effectivement en plus, c'est des plantes qui font une très mauvaise protection de talus ou de berges. Et puis, le fait de ne pas avoir une couverture végétale dense, basse, eh bien, il y aurait des attaques fortes des eaux, par exemple, dans les berges et des ravinements.
On trouve également, Jean-Pierre, des listes de plantes invasives en Suisse, sur, entre autres, pronatura.ch ou encore sur le site de la Confédération Suisse. Certaines sont même carrément interdites. Alors, moi, j'ai une question toute simple. Que faire si on a des plantes invasives sur son terrain? Alors, et déjà, comment on les reconnaît, peut-être?
Oui, alors effectivement, bon, les reconnaître, le plus simple est peut-être de regarder sur Google avec les photos et les éléments qu'on peut y découvrir. Mais bien sûr, tout le monde connaît le rumex qu'on a chez nous. Celui-là, c'est un invasif, mais local. On a les chardons, ça c'est aussi une vivace qui se développe par ramification souterraine et puis qui prend très vite de l'ampleur dans les espaces. On a le cendresson jacobi, c'est aussi une vivace qui est jaune, qui fleurit, qui est plutôt dans les bords de route, dans les pâturages, dans ces choses-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les aménagements extérieurs, c'est souvent trois problèmes, ces trois vivaces-là, donc le rumex, le chardon et le cendresson, c'est des essences qui ont de la peine à se développer, parce que le fait de passer la tondeuse vous la nanifie à arriver à la faire périr, parce qu'évidemment, son épanouissement n'est pas du tout là, on arrive à lui couper ses feuilles et ses hampes florales, et puis on arrive à l'éradiquer. Par contre, si vous les avez dans des talus ou dans des haies ou dans des bords de ruisseaux, selon où vous habitez, eh bien là, effectivement, il faut les combattre. Et puis, le meilleur principe pour les combattre est l'arrachage. Et puis, évidemment, on prendra garde de mettre tout ce qui est de déchets végétaux de ce genre d'arrachage dans des sacs pour de l'incinération dans les déchets ménagers.
Parce que le risque, bien sûr, c'est que ces plantes se reproduisent si on les met dans le compost.
Alors oui, évidemment. Et puis cette propagation, bien, il faut vraiment la combattre. D'autant plus que si vous avez d'autres types d'invasives, tels que les néophytes, comme on les appelle, c'est les invasives qui viennent de l'extérieur de notre région, qui peuvent venir du Japon, de Chine. Et bien là, c'est d'autant plus problématique. Et puis, bien sûr, c'est souvent des plantes qui ont une facilité d'adaptation à notre climat, à notre terrain, qui fait que simplement une ramification de 30 cm d'une renouée du Japon qui peut être perdue sur une remorque pour aller au compost, et bien cette ramification va facilement remettre des racines aux interstices des feuilles, et puis vous recréez une nouvelle zone de renouée ou d'héracléum, enfin de ces invasives.
Merci beaucoup Jean-Pierre. Je vous propose de se retrouver dans quelques minutes pour la suite des jardinières. Vous allez nous expliquer comment faire pour éviter justement d'avoir des plantes invasives dans son jardin.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, nous parlons de plantes invasives. Dans la première partie, nous nous sommes intéressés à l'identification et à l'élimination de ces invasives. Le terrain est donc libre. Alors Jean-Pierre, est-ce qu'il faut remplacer ces plantes invasives par d'autres qui ne le sont pas?
Oui, alors évidemment, dans la mesure du possible, mais ce n'est pas toujours très simple, parce que vous avez, si l'on prend dans les invasives telles que la renouée du Japon ou la berce du Caucase, pour s'en défaire, c'est quand même une lutte de quelques années durant pour arriver à les éradiquer. Ça veut dire, comme la berce du Caucase, c'est une grande ambellifère qui fait des pousses de 2 mètres, 2 mètres 50 par année, et puis qui se met à fleur à l'automne, pour arriver à l'éradiquer, elle, bien par exemple, il faut absolument éviter toute mise à graines de ce végétal. On sait que c'est une invasive bisannuelle, ça veut dire elle pousse la première année, elle se met à fleurs et à graines la deuxième. Donc si vous arrivez à percuter cette mise à graines, eh bien au bout de quelques années, vous aurez plus de berce du Caucase dans votre espace. Et puis là, eh bien déjà naturellement, vous voulez avoir l'écosystème naturel qui va se remettre en place avec tout ce qui se trouve autour de ce massif. Et puis si vous avez de la renouée du Japon, la lutte sera nettement plus compliquée, parce que il n'est pas de produits de traitement possible pour l'éradiquer, ça fonctionne pas. Et puis que pour l'éradiquer, eh bien il y a juste un arrachage continu pour appauvrir la réserve des racines, des stolons. Et puis là vous arriveriez à l'atténuer. Mais évidemment que si vous en avez, il faut de toute façon d'abord les combattre pour après arriver à implanter autre chose sur ces espaces-là.
Jean-Pierre, je vous propose une petite mise en situation. Imaginons que je me promène en forêt, que je croise des plantes invasives. Est-ce que je dois réagir? Qu'est-ce que je dois faire?
Alors, il y a quelques, bien sûr, le problème, c'est de les connaître pour arriver à savoir comment les combattre. Encore une fois, si vous rencontrez une berce du Caucase et puis que vous lui sectionnez toutes les hampes florales, vous les aidez ce milieu nature à éviter un enlisement. Si vous tombez sur de l'impatience glanduleuse, celle-là, elle est beaucoup plus compliquée parce que c'est une petite, c'est une vivace qui se développe le long des cours d'eau, dans les bords de forêts et autres. Le fait juste de la toucher, vous avez des semences qui se trouvent dans les pistils, et puis le fait de la toucher, ce pistil, il éclate, et puis ça fait office de catapulte au niveau de la semence, et puis ça peut vous projeter ces semences à 3-4 mètres. Alors, c'est selon la connaissance que vous en avez par rapport à ces invasives. Tout un chacun peut faire quelque chose, bien sûr, mais dans des périodes très précises, avec des interventions très précises également. Par exemple, si je reprends cette impatience glanduleuse et puis qu'on arriverait à éviter une mise à fleurs et une mise à graines, eh bien, au bout de quelques années, vous arriveriez à éradiquer le problème. Mais comme elle se trouve dans des endroits impossibles, elle se développe en sous-bois, elle se développe dans les berges, elle se développe partout, ce sera compliqué d'arriver à atténuer ce problème.
Donc il faut rester toujours attentif à ces plantes invasives et prendre le problème à la source dès qu'on le voit, si c'est un conseil que vous pourriez donner.
Alors oui, à l'évidence, tout un chacun peut combattre ce phénomène par alors déjà une connaissance de ces invasives, et puis une fois qu'on les connaît, eh bien connaître un petit peu sa lutte. Par exemple, là, la vergerette, le sénesson, ça c'est aussi des annuels qu'on pratique énormément d'arrachage pour éviter ces remises à graines pour l'année d'après. Oui, bien sûr.
Merci beaucoup Jean-Pierre pour tous ces conseils sur les plantes invasives, des conseils que l'on pourra retrouver en cours de matinée, bien sûr en podcast sur notre site internet.
Et on vous rappelle que vous trouverez beaucoup d'informations sur ces plantes invasives sur le site pronatura.ch et sur le site de la Confédération Suisse.
Les jardinières.
Suite des jardinières, et comme chaque samedi matin entre 7h et 8h, vous avez la possibilité de poser vos questions jardinage à notre professionnel de la branche. Ce matin, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve et propriétaire de Ribaud Paysages.
Et ces questions, on les attend avec impatience par téléphone. Vous pouvez nous joindre maintenant, tout de suite, là, au 0 901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et si vous êtes un peu plus timide, vous pouvez nous contacter par SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question, vous nous l'envoyez au 939 ou par le formulaire avec la possibilité de joindre une photo. Là, ça se passe sur notre site internet. Vous allez sous l'onglet émission, questions aux jardinières.
Et justement, c'est Philippe de Renan qui nous a envoyé une photo. Il nous dit bonjour, notre jardin, plus particulièrement nos fraisiers, sont envahis de cette plante jaune très envahissante avec de multiples racines. Nous avions essayé d'enlever ces ramifications l'année passée, mais elles sont revenues 4 fois plus nombreuses. Quelle est donc cette plante? Et surtout, que faire pour les éliminer? Merci d'avance pour votre réponse. Alors, Jean-Pierre, vous avez sous les yeux la photo de ces fameuses plantes envahissantes. Alors, comment les décrire? Ce sont des petites fleurs jaunes, grandes fleurs jaunes plutôt.
Oui, bonjour Philippe. En fait, je pense qu'on est dans une espèce d'aster qui se développe dans votre carré de fraisier. Et puis, je pense que le carreau de fraisier que vous avez en place favorise énormément cette vivace parce que, évidemment, vous avez de l'espace au sol. Elle arrive à s'épanouir au niveau des rosettes pour développer vraiment un maximum de feuilles parmi les fraisiers. Et puis, bien sûr, après, avec une qualité de feuilles au niveau du sol, eh bien, elle est super attractive pour la mise à fleurs et la mise à graines. Là, dans un cas comme ça, malheureusement, le mieux, ce serait de déplacer le carreau de fraisier, par exemple en prenant des stolons de votre vieille culture des fraises que vous avez sur place. Vous refaites une nouvelle culture de fraisier plus loin, où vous êtes sûr que vous n'avez pas ce problème de plantes, qui n'est malgré tout pas invasive. Hein. C'est une vivace qui est présente chez nous, mais qui n'est pas invasive, parce qu'on arrive à la gérer assez facilement. Donc, si vous déplacez votre carreau de fraisier et puis qu'après, soit vous mettez du gazon sur cet espace et puis vous passez la tondeuse, ou bien vous le couvrez avec une bâche pour faire une lutte mécanique pour éviter qu'elle n'arrive à s'épanouir, eh bien, en l'espace de 2-3 ans, vous arrivez à l'éradiquer. Encore une fois, ce n'est pas une invasive parce que, de un, elle ne pose pas problème au niveau économique. Elle est gênante chez vous, évidemment. Elle porte ombrage et puis elle se développe trop vite. Mais en plus, elle n'est pas toxique, donc simplement par une lutte de ce genre. Il n'y a pas un produit phytosanitaire qui va pouvoir vous la sélectionner dans le carré de fraisier, d'autant plus sur un carré de fraisier pour un herbicide, ce n'est pas tellement l'idéal. Donc le mieux, c'est une lutte, comme je vous l'ai cité.
Merci Jean-Pierre. Ben donc, je voulais rebondir, mais c'est vrai que c'est la lutte mécanique qui marche le mieux. Donc on se relève les manches, on arrache tout ça et puis on est patient.
Voilà.
On va se retrouver dans quelques instants pour la suite des jardinières. Jean-Pierre, on peut déjà vous dire qu'on va parler rhubarbe. Et si vous voulez faire comme Philippe, eh bien, ça se passe sur le formulaire, sur notre site. Vous pouvez envoyer une photo et surtout lâchez-vous sur les détails. Ça aide nos jardiniers à répondre.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin et jusqu'à 8h, on répond à vos questions.
Que ce soit par SMS, par formulaire ou par le téléphone, comme l'a fait Véronique au 0901 70 20 20. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Votre question pour Jean-Pierre.
Alors, j'aurais voulu savoir comment traiter mes scaroles qui ont des taches brunes. Et dont les feuilles sèchent dessous.
Oui. Bonjour Véronique. En fait, il faudrait simplement lui appliquer un fongicide pour éviter le développement de la rouille. C'est une maladie, un champignon qui se développe. Et puis, on le rencontre assez couramment dans les aménagements, dans les potagers. C'est des champignons qui sont très très courants, qui posent un peu de problèmes effectivement au niveau de ces trous. Il y a des fois, on pourrait aussi les confondre avec des attaques de parasites. Mais en l'occurrence, là, c'est un petit fongicide que vous devriez appliquer pour éviter que cette maladie ne continue de se développer.
Très bien, ben, merci beaucoup.
Mais merci à vous de votre appel, Véronique. Un tout
bonne
bon week-end,
journée.
À bientôt, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, on a reçu également une question via le formulaire de Bernard du Noirmont qui nous dit « Bonjour, j'ai planté ma rhubarbe l'automne passé et je ne l'ai pas du tout coupée cet été. Pour l'hiver, dois-je la tailler ou la laisser comme ça ? Merci pour votre aide et bon week-end. » Alors, Bernard a joint une photo de sa rhubarbe, magnifique plan de rhubarbe, hein, avec des grandes feuilles. Et puis, on voit bien les pieds qui sont bien rouges encore. Donc, Jean-Pierre, je vous laisse la parole.
Eh bien, bonjour Bernard. Oui, effectivement, belle culture de rhubarbe. Il est deux choses à remarquer. Sur la photo, je crois que vous avez du mulch de copeaux qui se trouve autour de ce plant de rhubarbe, et puis ça, c'est pas forcément super positif parce qu'on sait que le bois il absorbe passablement d'azote au niveau du sol pour sa décomposition. Donc là, au niveau de la rhubarbe, ça vaudrait la peine de lui faire un pourtour avec plutôt un substrat de compost, mais en tout cas de matériel ligneux tel que le copeau de bois pour éviter qu'elle pose problème. Et puis, si ce n'est pour la question, évidemment, pour cet automne, vous pourrez sectionner les feuilles que vous avez qui sont encore présentes là sur le plan. Il faudra juste porter garde à ne pas éreinter les nouveaux yeux en fait qui se trouvent au niveau du sol parce qu'ils sont déjà présents pour le démarrage de l'année prochaine. Et puis si vous coupez un peu trop bas, eh bien vous les éreintez et puis vous mettrez un peu en péril le démarrage de votre plan de rhubarbe l'année prochaine.
Et puis à noter que ces plants, enfin ces feuilles, une fois qu'il les aura coupées et les tiges, il ne faut pas les manger.
Oui, alors à l'évidence, on est plus en période de consommation de rhubarbe. C'est quelque chose qui se mettra sur un compost, ça se composte très bien, très facilement. Mais effectivement, on n'est plus dans cette période-là.
Est-ce que c'est juste parce que c'est trop dur à manger ou il y a un danger pour le...
Non, elle est dure et amère à cette période, c'est ça. On aime prendre la rhubarbe en consommation jusqu'à mi-juin. Là, on a des ramifications qui sont tendres et douces. Et puis après, elle commence à passer justement à ce stade plus âgé où maintenant, effectivement, on ne peut plus la consommer.
Merci Jean-Pierre. Raphaël, je propose qu'on prenne la question suivante.
Exactement. Bonjour, j'aimerais savoir comment protéger un laurier rose du gel et du froid pendant l'hiver qui arrive. Et on a une petite précision, il est dans un grand pot en terre et fait environ 1 mètre de circonférence et 1m30, 1m50 de hauteur. Il est sur une terrasse exposée est, sud et sud-ouest. Et nous vivons à Auvergne, au bord du lac de Neuchâtel.
Oui, alors effectivement, le laurier n'est pas une plante qui passe relativement facilement les hivers par chez nous, parce que c'est des lauriers du Portugal et ils sont d'une situation beaucoup plus clémente que la nôtre. Après, il y a encore un autre phénomène, là, en présence de ce pot, c'est que c'est un pot en terre cuite, comme elle l'a dit. Et puis, au gel et dégel, il y a un risque évident qu'il ne casse, parce que le pot en terre cuite, eh bien, il va absorber de l'humidité. Et puis, avec un coup de gel, eh bien, elle va gonfler dans le pot, et puis le pot en terre cuite sera fichu. Donc là, ce serait vraiment intéressant de pouvoir le mettre dans un jardin d'hiver ou de le mettre dans un garage où il y a un peu de luminosité pour éviter qu'il ne descende à moins zéro, parce que sinon, et le pot et la plante auront des dégâts. S'il avait été dans un pot en plastique, eh bien, on peut essayer de protéger en le mettant dans l'angle d'une façade, contre une façade ou le long de bâtiment. On prendra quand même garde de l'emballer dans un flims, dans un sac de jute ou dans une couverture, quelque chose comme ça, pour éviter justement que les ramifications aériennes deviennent prises par le froid et les bises, parce qu'il peut encore supporter moins 1, moins 2, moins 3. Il ne va pas supporter moins 20 avec un fort coup de bise, parce qu'évidemment, ça amplifie ce froid. Et puis là, automatiquement, vous aurez un gros dégât sur votre laurier du Portugal.
Merci beaucoup Jean-Pierre. On a reçu entre-temps une question de Roselyne de Neuchâtel qui nous dit « Bonjour, mon olivier a perdu toutes ses feuilles. Comment faut-il s'y prendre pour qu'il reprenne vie? Il commence à avoir des petites repousses sur le tronc. Que faut-il faire ?» Et Roselyne a joint une photo. Jean-Pierre, je ne sais pas si vous pouvez rapidement voir cette photo. On voit le tronc de l'olivier avec les premières petites pousses qui arrivent sur ce tronc.
Oui, en fait, j'ai pas accès à la photo, mais j'imagine bien qu'il a certainement eu un gros coup de... Ah, je crois que... Attendez, j'ai juste un coup d'œil. Voilà. Oui, certainement qu'il a eu un bon coup de sec durant cet été. Il a été mal arrosé et puis il a justement, pour éviter un assèchement total, il s'est délesté de ses feuilles. Il faut savoir que les feuilles, c'est les éléments qui transpirent énormément sur les végétaux. Et puis, si une plante commence d'avoir soif, eh bien évidemment, c'est le premier symptôme que l'on voit. On voit, c'est des feuilles qui viennent flétries et puis qui sont pendouillantes. Alors, le végétal, là, en l'occurrence, l'olivier, il est plus difficile de voir que cette feuille est en souffrance parce que c'est une feuille qui est plutôt dure. Et puis le jour où l'olivier a décidé de se défendre vraiment, eh bien il se déleste de ses feuilles, elles tombent pour justement éviter cette évaporation, pour sauvegarder le plombière. Et puis là, eh bien il a été remis à l'humidité et puis le végétal il repart en pousse. Alors dans ce cas-là, étant donné que c'est une tige sur laquelle redémarrent des feuilles et des pousses, eh bien si on veut garder la forme de cet olivier, on prendra garde de les enlever pour laisser les dernières ramifications supérieures s'épanouir, si vous voulez. Et puis là, l'olivier, il va repartir. C'est assez résistant, mais il aime quand même un peu d'humidité durant l'été.
Merci beaucoup Jean-Pierre. N'hésitez pas à continuer. On a encore quelques petites minutes à passer ensemble ce matin dans les jardinières, que ce soit par téléphone 0901 70 20 20, par SMS ou par le formulaire sur le site internet.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. On est ensemble encore quelques instants, Raphaël.
Oui, et Rosalie a pris son téléphone au 0901 70 20 20 pour nous poser une question sur une plante et une histoire de moucheron. Rosalie, bonjour.
Oui, bonjour.
Votre question pour notre professionnel.
Oui, alors je voulais savoir comment enlever tous ces petits moucherons qu'il y a sur ma plante. Il y en a sur le pot. Sur la terre, il y en a partout qui volent dans la maison. C'est une plante qui s'appelle Euphorbia.
Oui. En fait, la mouche blanche, c'est un parasite qui est assez fréquent et puis qui est difficile à combattre. Elle est noire.
Elles sont noires.
Ok,
oui.
Mais ça reste toujours le même problème, c'est des moucherons qui se qui se multiplient dans le terreau et puis après, évidemment, pour s'épanouir, ils viennent manger, sucer les parties végétatives du végétal. Et puis, alors il y a que la lutte chimique qui va pouvoir permettre d'éradiquer le problème. Ce qu'il faut, c'est quand même intervenir plusieurs fois avec un produit que vous trouverez dans le commerce. Il faut prendre évidemment un insecticide, c'est un produit qui attaquera que les insectes. On n'a pas besoin de fongicide dans ce cas-là. Et puis, il faudra traiter à une cadence de tous les 15 jours pour reprendre les parasites qui arrivent à maturité. Parce que vous voulez pouvoir traiter ceux qui sont présents au stade adulte, mais vous ne voulez pas pouvoir prendre ceux qui sont au stade des œufs et puis des larves dans le terreau. Et puis pour cela, eh bien, il faudra se défendre avec une intervention à renouveler, effectivement. Après, c'est aussi souvent des parasites qui arrivent sur des plantes d'intérieur. Et puis, si vous le mettiez sur l'extérieur quelques jours, la densité du parasite diminuerait, mais il y aura quand même, de toute façon, cette lutte chimique à intervenir pour se sauver du problème.
Oui, parce que je l'ai mis sur le balcon à un moment, mais il y en avait presque plus, mais après, c'est revenu. Je l'ai remise à l'intérieur, mais...
Oui,
ça va pas.
C'est ça le problème, c'est qu'il y a un cycle au niveau du parasite qui est lent, long, et puis il faut prendre toutes les générations, puis à ce stade vous n'arrivez pas avec un produit parce que, eh bien, il se trouve à plusieurs endroits, soit dans le terreau, soit sur le pot, soit sur le végétal, et puis en général l'insecticide c'est soit un produit qui va passer par la feuille du végétal, et puis quand l'insecte il sucera de la sève du végétal, eh bien il va périr, ou bien alors c'est des insecticides de contact, et puis pour arriver à faire périr le parasite, il faut que tous les parasites soient touchés par le produit, sinon vous n'arrivez pas à vous en défaire.
Merci en tout cas de votre appel, Rosaria. On vous souhaite un excellent week-end.
Bonne
Merci
journée.
Beaucoup. Et puis après, du coup, les plantes invasives, c'était les moucherons qui étaient invasifs. Merci Jean-Pierre pour tous vos précieux conseils. On rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Ribaud Paysages à Queuve. On vous dit à très bientôt et merci d'avoir été encore avec nous ce matin.
Oui, merci à vous tous et puis un super week-end à tout ce petit monde.
Merci Jean-Pierre. Les jardinières seront de retour samedi prochain dès 7h en compagnie de Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy. Et nous parlerons également de champignons en première partie d'émission. Nous recevrons Gaëlle Mona, contrôleuse de champignons à Neuchâtel. À samedi prochain, Raphaël.
À samedi prochain.
Et bon week-end à toutes et à tous. Et prenez soin de vous.
7h, 8h, les jardinières.